les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier, Nathanaël Picasse.
Retour aujourd'hui sur une série culte, Sarah.
Surtout pour toi. Il faut savoir, chers auditeurs, que cycliquement, on revient sur cette série que Alex adore.
Cycliquement. Et cette fois... une fois, on est venu dessus, attends.
Et cette fois-ci, celui qui s'y colle, c'est Nat. Et en fait, tu vas nous parler de Cosmos 1999. Soyons sérieux, c'est quand même une série qui a vraiment marqué les années 70.
Ah oui, ça c'est sûr, Sarah. Bon, c'est vrai que quand Alex m'a demandé de faire un dossier sur Cosmos 1999, j'avoue que à l'époque, j'avais jamais entendu parler de cette série. Sur moi, je sais.
Oh là là.
Sur les doigts. Tout au plus, le titre m'évoquait un très vague souvenir. Je me disais space opéra, attention, attention, danger. Et puis je me suis dit, bon, allez, je vais lui faire plaisir, on va faire ce dossier. Et donc, ça y est, c'est parti. Donc, Cosmos 1999 est une série britannique de science-fiction qui a été diffusée entre 1974 et 1977. Et alors, bien qu'elle succède à d'autres séries prestigieuses du genre, comme Star Trek, Les Envahisseurs, Cosmos 1999 a marqué la télévision des années 70 et est devenue au fil du temps une série culte, comme on l'a dit. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les fées s'étaient penchées sur son berceau dès la naissance. Elle fut la production la plus ambitieuse et la plus coûteuse de Gerry Anderson, qui est un spécialiste du genre, puisque nous lui devons des œuvres telles que Les Sentinelles de l'air, Thunderbirds en anglais, Fusée XL-5 et Alerte dans l'espace, ou UFO. Et à noter que, comme pratiquement à chaque fois, Anderson s'était adjoint les services de son épouse, Sylvia Anderson, pour créer la série. Il faut savoir que Cosmos 1999 est une série qui était très en avance sur son temps et qui a vraiment été poussée par l'ambition de ses deux scénaristes et producteurs, et elle a tracé la voie pour plusieurs grands films et séries de science-fiction. La série demanda 2 ans de préparation, 15 mois de tournage et de très nombreux effets spéciaux. Les effets spéciaux d'ailleurs étaient signés par Brian Johnson, celui-là même qui se chargea des effets spéciaux de 2001 Odyssée de l'espace et de Alien, rien que ça quand même. Il faut savoir aussi que Cosmos 1999 était à l'époque la série télévisée la plus coûteuse, avec plus de $300,000 par épisode, un budget qui doit bien faire rigoler maintenant les héroïnes de Desperate Housewives, puisqu'il s'agit de la somme qu'elles gagnent par épisode chacune. Donc bon, soit, on voit que les choses ont quand même bien changé. Alors, l'histoire de Cosmos 1999, les hommes ont acquis une maîtrise technologique suffisante pour coloniser la Lune. Alpha est le nom de la base lunaire dans laquelle ils vivent, et c'est pourquoi ils sont nommés les Alphans. Tout semble aller bien dans le meilleur des mondes, si ce n'est qu'il se produit des choses étranges et inexpliquées sur cette station lunaire. Il faut savoir que le satellite de la Terre est devenu à la fois une vaste décharge de déchets nucléaires et aussi une base de lancement d'exploration spatiale. Le 9 septembre, le commandant John Koenig est envoyé sur place par le commissaire Simmons pour remplacer le commandant Gorski. Sa mission est double. Un, faire la lumière sur les crises de panique qui atteignent certaines personnes qui vivent sur cette base lunaire, et même la mort inexpliquée de 9 membres de la base. Et deux, il doit organiser les derniers préparatifs du lancement d'une expédition pour la planète Meta, une planète vers laquelle tous les regards se tournent puisqu'elle pourrait être habitée. Ou en tout cas, on reçoit des signaux depuis cette planète et on se dit bon ben, il faudra aller voir dessus. Une fois sur place, le commandant Koenig comprend que les morts inexpliquées peuvent compromettre la mission vers la planète Meta, puisque parmi 2 des patients en observation figure un des membres de l'équipage censé se rendre sur la planète Meta. Et en attendant d'en savoir plus, il décide donc, et en dépit des pressions de Simmons, de différer le départ vers la planète Meta, réduisant ainsi les chances de succès. C'est avec l'aide du docteur Elena Russell et du professeur Victor Bergman que le commandant Koenig va découvrir petit à petit la cause des décès et des crises de panique de certains alphans, et il va découvrir qu'elle n'est pas d'origine virale, comme ils auraient pu le croire au début. Elle n'est pas non plus due à des radiations nucléaires, mais en réalité, elle est due à des fortes radiations du champ magnétique de la zone d'entreposage nucléaire qui provoque en fait des lésions cérébrales. Le commandant Koenig tente de réagir en décidant d'entreposer les déchets nucléaires différemment. Malheureusement, c'est trop tard, et le véritable cataclysme surgit le 13 septembre 1999, une effroyable explosion collision causée par l'instabilité électrique des déchets nucléaires provoque la sortie de la Lune hors de l'orbite de la Terre en emportant la station Alpha avec ses 300 occupants dans une fantastique odyssée à travers l'espace. Bon, là on peut remarquer qu'il y a déjà un petit problème au niveau logique puisqu'en fait les déchets nucléaires étaient censés être entreposés sur la face cachée de la Lune et donc normalement s'il y avait une immense explosion la Lune aurait dû plutôt se rapprocher de la Terre plutôt que s'en dégager, mais bon soit, il faut accepter
une erreur scénaristique mais qui aurait empêché dans le cas contraire oui. La série évidemment,
ça aurait été embêtant.
Et puis vaisseau spatial spécial.
Oui, puisque ici, il ne s'agit pas du tout de vaisseau qui est à la dérive, c'est la Lune qui est carrément le vaisseau.
Un vaisseau spatial à la dérive, on peut encore naviguer. Là, on est obligé de suivre la trajectoire.
Voilà, donc pas le choix. Et c'est vraiment une métaphore quand même du monde à la dérive. Ils espèrent en fait rencontrer sur leur chemin ou passer à côté d'une planète habitable. Et donc c'est vraiment, je trouve quand même la métaphore du monde à la dérive qui s'accroche à un hypothétique paradis. Peut-être qu'on va croiser quelque chose qui va nous permettre de nous sauver.
Et sans aucun espoir de retour.
Voilà, exactement.
L'explosion tout à fait inattendue qui a eu lieu à la surface de la Lune a occasionné la nuit dernière de sérieuses répercussions sur la Terre. Les nombreuses secousses sismiques qui ont été enregistrées aux États-Unis sur la majeure partie de la côte ouest, en Yougoslavie, aussi bien qu'au sud de la France, ont hélas fait de nombreuses victimes dont le chiffre n'est pas évalué. La délégation internationale de l'espace réunit son conseil sous la présidence du remplaçant de M. Simmons et est en ce moment en train d'essayer de mettre sur pied un programme visant à envoyer du secours aux 311 hommes et femmes se trouvant à la base Alpha. De sources bien informées, l'espoir reste cependant faible de retrouver des survivants sur la base. Pendant quelques heures, les responsables du programme Alpha ont cru qu'un sauvetage pouvait être tenté d'une des planètes qui se serait trouvée sur la même orbite. Il est à présent prouvé que l'accélération de la Lune a considérablement augmenté sa distance par rapport à la Terre.
Branchez toutes les fréquences, il faut capter n'importe quoi. Tenez celle-là. C'est Meta. Nous pourrons peut-être vivre un jour là-haut. Pourquoi pas?
Septembre 1999. Les signaux de Meta augmentent sans cesse. Oui. Là-bas, peut-être.
Cosmos 1999 est vraiment articulé sur une recherche un peu mystique, en fait. On le voit d'ailleurs puisqu'elle s'articule autour de trois personnages principaux, John Koenig, Elena Russell et Victor Berman. Chacun de ces trois personnages possède une personnalité forte et un passé qui les relie d'une manière ou d'une autre à la station Alpha et qui même, en fait, fait d'eux des pères, en fait, ou des mères, dans le cas d'Elena, de la station. Donc on assiste à une véritable trinité. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une dimension très mystique dans Cosmos 1999. J'ai un petit peu présenté les trois personnages principaux, puisque la série tourne énormément autour d'eux et développe petit à petit leur histoire, on en apprend énormément sur eux. Le premier, c'est John Koenig, qui est joué par Martin Landau, qui est un des meilleurs astrophysiciens américains de son époque. Il compte parmi les premiers à avoir travaillé sur le projet de la base lunaire Alpha, donc c'est comme ça qu'il est relié à la station. Et lorsque le commandant Anton Gorsky est discrédité par le commissaire Simmons en septembre 1999, Koenig est nommé pour le remplacer sur la base Alpha. Il a alors informé de la véritable cause des 9 décès parmi l'équipe des astronautes et il décide de trouver une solution trop tard puisque donc l'explosion a lieu et depuis lors donc Koenig doit constamment se battre contre les éléments pour assurer la sécurité des centaines de survivants à cette catastrophe. Koenig est un homme respecté, il est celui vers qui tout le monde se tourne avant de prendre une décision. C'est quelque chose d'énormément difficile à vivre puisque chacune de ces décisions est lourde de responsabilités et de conséquences. Lorsqu'ils croisent une planète et qu'ils vont aller la visiter pour voir si elle est habitable, c'est lui qui va décider ben non ça va pas du tout ici, il faut vite rentrer, et c'est lui qui prend aussi la décision lorsque la Lune est projetée au-delà de l'orbite terrestre de ne pas réessayer de repartir sur Terre. Il a dit bon ben on peut survivre sur la Lune, maintenant on va voir là où on va arriver. Donc c'est vraiment lui qui prend les décisions, c'est la figure du père, hein, ça c'est sûr. Avec ses connaissances scientifiques et ses qualités de leader, donc il a vraiment pour but l'ultime sécurité des gens sous son commandement. C'est quelqu'un de très intelligent, de très vif, il possède des nerfs d'acier, ce qui n'empêche pas de s'emporter à l'occasion sous le feu de l'action. Mais ses responsabilités qui lui incombent l'obligent aussi d'être intransigeant vers ses subalternes. subalterne et ses associés, mais tout le monde se tourne vers lui et se fie à lui afin de les guider sur la station. Et Koenig, en tout cas, peut compter à tout instant sur l'appui précieux du chef du centre médical d'Alpha, qui est Elena Russell. Alors Elena Russell, c'est la fille d'un chercheur célèbre qui a contribué à enrayer certaines formes de cancer. Elena Russell est jouée par Barbara Bain. Et donc c'est un personnage qui s'est dédié très tôt à la médecine et qui s'est spécialisé dans la branche toute nouvelle de la médecine de l'espace. Elle est engagée ensuite par la Commission spatiale internationale où elle rencontre son mari, l'astronaute Lee Russell. Celui-ci part en 1995 pour une mission en direction de Jupiter, une mission qui s'appelait Astro 7. Mais quelques mois plus tard, on perd toute trace de son expédition. Elena donc part donc du principe qu'elle est veuve. Pour oublier sa peine, Elena s'investit à 100% dans son travail. Elle contribue ainsi à élaborer le système de support vital qui sera essentiel pour les habitants de la base lunaire Alpha. Donc on voit encore comment elle est reliée par rapport à cette station. Dès février 1999, elle accepte de devenir le chef du centre médical de cette base et c'est elle la première qui détectera les étranges symptômes des astronautes qui travaillent dans la section des silos qui contiennent les déchets nucléaires.
Il faut savoir que à l'époque, Martin Landau et Barbara Bain, qui sont les deux acteurs, étaient un couple à la ville.
Et qui avaient déjà joué dans Mission Impossible ensemble.
Mais qui n'ont pas pu avoir de scène où le couple était proche puisque les producteurs ne voulaient absolument pas d'une série feuilletonnante. Donc il était impossible de leur faire faire une histoire d'amour puisque d'un jour à l'autre, les histoires devaient être complètement indépendantes.
Elena Russell, elle va vivre ce voyage dans l'espace comme elle va devoir composer en fait avec l'inconnu des profondeurs de l'espace et elle va devoir aussi rencontrer des phénomènes qu'elle a beaucoup de mal à s'expliquer comme entre autres elle va faire une rencontre tragique avec son défunt mari qui existe encore mais sous une forme un peu différente. Alors il y a une explication un peu particulière comme quoi c'est l'antimatière, donc l'antimatière n'est pas morte et tout, mais il faut essayer de comprendre, des fois c'est un petit peu confus, mais bref, ça va la mettre quand même un petit peu mal de rencontrer son mari ainsi. Et plus tard elle sera confrontée à son double dans un avenir alternatif, puis elle retournera 10 000 ans en arrière pour redécouvrir les origines du genre humain. Elle va devoir à chaque fois affronter des choses qu'elle ne peut pas s'expliquer alors qu'elle a un esprit extrêmement scientifique. À première vue, Elena Russell est quelqu'un de froid et de calculatrice, mais elle est pourtant très proche des gens en fait qui l'entourent, particulièrement de John Koenig, donc même s'il n'y a pas une relation amoureuse, elle est très proche de lui, elle est toujours prête à l'aider.
Il y a toujours cette tension sexuelle sous-jacente entre les deux.
Oui, voilà, ce qui fait aussi le sel de la série quelque part, bien entendu. Et elle a aussi un grand ami sur la station, c'est Victor Bergman, qui est joué par Barry Morse, qui est considéré lui comme le père de la base lunaire Alpha, puisqu'il a contribué à l'élaboration de plusieurs éléments et dispositifs permettant la survie des humains sur la surface de la Lune. Troisième personnage de cette trinité à qui l'on doit la station. Il est pourtant né dans une époque où un voyage sur la Lune tenait vraiment de la science-fiction. Malgré alors son allure un petit peu débonnaire de savant distrait, c'est un véritable génie de la trempe des plus grands savants de sa génération. Sa grande culture le rend paradoxalement très critique envers la technologie et ses dangers, donc c'est un scientifique mais en même temps qui se pose beaucoup de questions sur ce que la technologie peut apporter au genre humain, mais il en est quand même extrêmement redevable puisqu'en fait une maladie cardiaque l'avait momentanément obligé de prendre un repos forcé et il a dû être opéré d'urgence et on lui a posé un cœur artificiel, donc il est vraiment dépendant de cette technologie, une expérience qui le rend un petit peu distant mais qui ne freine pas son enthousiasme de scientifique. Lui, il va vivre ce voyage à travers l'espace sur la Lune comme un nouveau départ pour le genre humain. Donc lui, il le vit de manière extrêmement positive. Pour lui, l'espace relève plein de défis. C'est quand même un personnage qui sauvera plus d'une fois les habitants de la base Alpha d'une mort certaine avec ses découvertes. Victor est un être solitaire. Il a des moments aussi de loisirs un petit peu particuliers. Il aime jouer du violon dans ses quartiers, ou travailler à une de ses inventions, ou discuter avec Elena Russell. Et alors, au grand dam de celle-ci, il ne déteste pas prendre un petit verre de brandy à l'occasion, et pourquoi pas fumer un cigare. Tant pis si j'ai des maladies, dit, on profite quand même de la vie. Malheureusement, c'est le personnage qui n'a pas eu le temps de voir l'aboutissement du voyage des Alphans, puisque lors d'une vérification de l'équipement de surveillance de la base, sa combinaison spatiale lui fait étrangement défaut et il va succomber ainsi dès le début de la saison 2, si je me souviens bien, et donc son cœur mécanique va céder et Elena Russell tentera en vain de le sauver. C'est assez dommage d'ailleurs de se voir se débarrasser d'un tel personnage parce qu'il était très sympathique et très apprécié par les fans.
C'est la pirouette que les producteurs et scénaristes ont trouvé pour se débarrasser du personnage au début de la deuxième saison.
Dick. Oh, toi.
J'ai tout fait pour t'empêcher de venir ici.
Ne me laisse pas, Dick. Aide-moi. Comment tout cela est-il possible?
La mission Astro 17. Nous avions été attirés dans une orbite trop proche de Jupiter. Nos écrans de chaleur ont tous explosé. Nous avons été atteints par une espèce inconnue de radiation, je suppose, qui nous a transformés et dispersés d'un coup à travers l'espace immense. C'est sous cette nouvelle forme, telle que tu me vois maintenant, que je me suis réveillé sur cette planète.
Mais tu es mort, Dick.
Non. Mourir est une chose impossible. Jamais ce qui existe ne meurt. Tout change de forme. Il y a beaucoup de formes de vie dans l'espace. Beaucoup de formes de mort aussi. Je ne suis qu'une image à l'envers. Une sorte d'opposé à un moi qui est différent.
L'antimatière?
Si tu préfères, oui. Mais je ne pourrais survivre dans ton univers. Et tu ne pourrais survivre dans le mien. C'est pourquoi il faut que tu partes. Tu viens de subir une expérience qui risque la prochaine fois d'être pire, bien pire. Je t'en prie, il faut t'en aller.
Mais comment ?
Je vais t'en donner la force.
Les deux saisons sont très différentes l'une de l'autre, ça j'en parlerai un petit peu plus tard dans ma critique. Je dirais quand même que la première saison vaut nettement plus le coup d'œil que la deuxième, et donc comme il y a une telle césure, on a affaire à deux séries différentes. Et ils ont repris juste le postulat de départ de cette lune qui part dans l'espace, mais sinon c'est vrai que c'est extrêmement différent. Comme toute série qui se respecte, Cosmos 1999 présente un certain nombre de thèmes récurrents. Dès le premier épisode, il est rapidement évident que la peur du nucléaire quand même est un des thèmes fortement abordés, puisque c'est quand même le nucléaire qui provoque cet accident. On va essayer de se remettre un petit peu dans l'époque, les années 70. Bon, le nucléaire est maîtrisé, mais ça n'empêche qu'on en a tout de même toujours un petit peu peur. On ne sait pas quoi faire des déchets. Ici, c'est vrai que la série apporte la solution d'aller les mettre sur la Lune, mais on voit que c'est une solution qui ne fait que déplacer le problème momentanément, puisque de toute façon, ça provoque une explosion délogeant donc la Lune de son orbite autour de la Terre. Un des autres thèmes aussi, c'est le pouvoir et ses responsabilités. J'en ai parlé déjà avec John Koenig, qui, en étant le commandant de la station, eh bien, chacun de ses choix a une influence sur le reste de la communauté. Et vraiment, la série revient constamment sur le thème du pouvoir et des responsabilités qui en découlent. On comprend alors que le pouvoir n'est pas un véritable privilège ou une facilité en soi. C'est plutôt, au contraire, une lourde tâche qui est soumise à l'obligation aussi d'obtenir des résultats, sans quoi le pouvoir est retiré. Et on voit que c'est pas la panacée pour John Koenig d'essayer de mener à bien cette mission. Un autre thème, c'est la technologie et son utilisation. Est-ce qu'on va aller vraiment le personnage qui utilise fréquemment, et même dès qu'ils le peuvent, en fait, la technologie, ce qui est une façon assez paradoxale de souligner leur humanité. Également, ça souligne leur soumission à cette technologie, parce que c'est eux qui l'ont créée et qui maintenant en sont totalement dépendants, parce que s'ils ratent quelque chose, ben, il y a toute la survie de leur mission qui, enfin, de leur mission, un peu forcée, bien sûr, qui en découle. Alors, j'ai ces petits détails, moi, que je trouve assez sympathiques, c'est que, ils se sont dit, il faut qu'on trouve un élément qui montre que c'est de la technologie. Et donc chaque personnage a une télécommande accrochée à la ceinture, télécommande qui leur permet d'ouvrir les portes. Et donc je trouve cette utilisation de cette télécommande un petit peu surfaite, parce qu'il y a quelque chose de très drôle de les voir s'arrêter devant une porte, prendre la télécommande, appuyer sur un bouton, la porte s'ouvre, ils passent la porte, ils se retournent, ils appuient sur la télécommande, la porte se ferme, ils perdent du temps. Finalement on se dit bon, une porte coulissante qui s'ouvre toute seule, ça aurait été bien.
Oui,
aussi,
ça irait aussi vite avec une clenche finalement.
Oui, voilà, ça irait surtout plus vite avec une clenche. Donc
c'est une technologie vue des années 60.
Voilà, c'est ça. Mais par contre, il y a 2-3 trucs qui sont bien vus. C'est plutôt l'utilisation de la télé ou des sortes de vidéoconférences. Ils peuvent s'appeler, ils ont une des sortes de portables de 4e ou 5e génération. Je sais pas à quelle génération on est actuellement. Mais donc, ils peuvent voir la tête de la personne qui les appelle. Et donc, ils peuvent vraiment communiquer en direct. C'est assez bien fait. Bon, c'est en noir et blanc. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on est passé à la couleur. Mais je trouve que là, ils avaient assez bien vu. Par contre, au niveau de la technologie, il y a aussi les boutons dans ces salles immenses qui clignotent un peu partout. Ils ont encore limité ça. Je trouve que ça aurait pu être pire. Mais,
le pire reste quand même les ordinateurs à bandes, quand même.
Oui, voilà, hein, les ordinateurs.
Tant que ça n'existe plus ou qu'on les utilise plus, en tout
voilà.
cas.
Voilà. Mais ce qui est aussi, par contre, de très sympa, ce sont les tunnels, en fait, qui relient les différents trucs, donc qui rentrent dans des sortes de petits métros qui sont assez bien faits, d'ailleurs. Ça, c'est assez sympa.
Idée qui a été reprise par la suite dans Babylon 5, par exemple.
Et c'est aussi une technologie dont on a pu vérifier aussi la non-existence, puisque le 1999 a eu lieu et on s'est bien rendu compte qu'effectivement, on n'habitait pas sur la Lune et qu'on n'avait pas encore, en 99, les GSM super technologiques. Et donc je me souviens qu'à l'époque, quand le 13 septembre est arrivé, pas mal de gens ont réfléchi à ça, au décalage, et donc à la science-fiction, aux implications qu'elle peut avoir. Et c'est vrai que nous, on peut regarder ça maintenant du haut de nos très vieilles 2000 années.
La technologie a avancé beaucoup moins vite qu'on le pensait, ou en tout cas, les efforts sont déplacés vers Internet ou les technologies multimédia, mais plus tellement vers la conquête spatiale. Alors je vais faire quand même la petite critique de la série. Bon, j'admets sans honte que je m'étais plongé dans Cosmos 1999 avec assez peu d'enthousiasme, et pourtant je reconnais quand même la série de très grande qualité. La mise en scène fourmille de petites idées vraiment très très intéressantes, les effets spéciaux étaient excellents pour l'époque, ça il faut quand même le souligner. Bon, maintenant c'est sûr que vu tous les films qu'on a vus, toutes les séries qu'on a vues, ça fait un petit peu kitsch, mais je trouve qu'il y a certains effets spéciaux qui tiennent encore vraiment la route, les vaisseaux spatiaux qui atterrissent par exemple, ce genre de choses. Bon, on voit que ce sont des maquettes, mais c'est quand même relativement bien fait.
Il faut dire que c'était quand même le spécialiste en la matière, puisque Jerry Anderson est celui qui a fait les Sentinelles de l'air, donc qui a l'habitude de travailler avec des maquettes et en super marionnation, il appelait ce système.
Ah d'accord. Faut dire que c'est aussi son petit charme, hein, les effets spéciaux. Bon, c'est vrai que c'est toujours marrant d'apercevoir le câble accroché dans le dos d'un personnage lorsqu'il est censé être en situation d'apesanteur. Dans le premier épisode d'ailleurs, dans les toutes premières minutes, si vous faites bien attention, on voit bien le câble à un moment lors d'explosion comme ça, il y a vraiment la lumière qui se réfléchit dedans et c'est assez drôle. Ensuite, je soulignais quand même que bien que certains épisodes en soi sont parfois construits de façon un peu confuse, ils essaient quand même de faire des métaphores qui touchent au mystique, ce genre de choses, et des fois c'est un petit peu confus, on ne comprend pas exactement où ils veulent aller, mais il faut quand même souligner que la saison 1 se démarque par sa grande cohérence et ses thèmes jouant sur de nombreuses métaphores qui renvoient à notre société. J'ai quand même quelques bémols à souligner, c'est le jeu d'acteur très particulier et très agaçant de Barbara Bain, l'actrice qui joue Elena Russell, parce qu'elle veut jouer donc un personnage un peu froid d'apparence, alors elle semble figée, mais complètement, elle affiche la même expression du début à la fin, avec deux grands yeux ouverts comme des billes, on a l'impression qu'elle a un balai dans le... Et c'est très élevant, on en avait dit, mais déride-toi ma chérie, quoi.
C'est un peu Candice en les larmes.
Voilà, c'est ça. Mais apparemment, c'était une femme extrêmement en vogue à l'époque, qui était très 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 connue.
Ouais, elle était mannequin, elle faisait toutes les pubs pour les shampoings, c'était... Bon, tu vois à quoi je fais référence actuellement, je pense que c'était la Jennifer de l'époque.
Mais bon, en tout cas, j'ai beaucoup de mal à m'expliquer son succès parce que, bon, en soi, elle est plutôt jolie, mais c'est vrai que son jeu d'actrice est très particulier.
Faudrait peut-être vérifier Mission Impossible pour voir si elle était comme ça.
Autre défaut de taille, là, c'est la différence flagrante entre la première et la deuxième saison, on en a déjà parlé, parce que même si la première saison a remporté un très vif succès, la chaîne britannique ITC One n'y crut pas du tout, et donc la seconde saison, même si elle a été tournée dans les studios anglais, elle fut produite par l'américain Fred Freiberger, à qui l'on doit The Wild Wild West, donc...
Les Mystères de l'Ouest.
Les Mystères de l'Ouest, exactement, Star Trek, ou alors L'Homme qui valait...
3 milliards.
3 milliards, voilà. Et donc avec ce transfert de nationalité, il faut dire que Cosmos 1999 a vraiment perdu sa dimension philosophique et fantastique, et aussi une bonne partie de ses personnages, donc Barry Morse qui jouait Victor Bergman en tête, et ils ont vraiment privilégié l'action pure.
Je ne sais pas si c'est le fait que la production s'est tournée vers l'Italie pour renforcer les sommes apportées, mais on a assisté quand même à l'apparition de beaucoup de spaghetti bolo dans la saison 2, j'ai l'impression, non ?
Voilà, c'est ça, donc c'est un peu particulier.
Les monstres étaient très sanguinolents, avec beaucoup de tentacules qui ressemblaient très fort à des spaghetti bolognaise, c'est incroyable. C'est une kitscherie sans nom. Autant la saison 1 est remarquable, autant la 2 est à mourir de rire tellement elle est moche visuellement.
Ça fait très western spaghetti, mais dans l'espace.
Voilà, voilà. C'est ça.
Bon, vous l'aurez remarqué, je suis à côté d'un ancien fan et d'un nouveau converti. Hein.
Et donc, bon, voilà, pour cette raison quand même de la différence entre la première saison et la deuxième, je ne peux qu'en conseiller aux personnes qui veulent se lancer dans Cosmos 1999 de regarder d'abord et surtout et même rien que la première saison.
Ok, donc il n'est pas excommunié, Alex. On le garde ?
Non, pas du tout, on va le garder.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.